France Musique. Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Marianne.
Ah, que de bons moments passés au micro en compagnie de Micheline Dax. Elle était si drôle, si vive, si chaleureuse pour évoquer l'opérette, la chanson, le théâtre de boulevard ou même le sifflement. Micheline Dax est venue plusieurs fois dans cette émission. Je vous propose de la retrouver dans notre second enregistrement. Étonnez-moi Benoît avec Micheline Dax le 6 mars 2010.
C'était le soir d'un 14 juillet. Quelques lampions qui tremblaient sur un fil faisaient briller solitaire et discret un petit bal au milieu de la ville. Bal, petit bal, où l'on s'est connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'un inconnu. Bleu ou bien vert, tes yeux lumineux sont si clairs, ils m'ont mis la tête à l'envers sur un air de fête. Je me souviens du patron sympathique, les disputes politiques avec l'agent phlegmatique. Et pour nous deux, un seul musicien paraissait, et le vent léger qui faisait voler tes cheveux. Et quand le dernier lampion s'est éteint, un grand amour était né dans la ville. C'était le nôtre dansant au matin, dans le petit bal devenu tranquille. Bal, petit bal, où l'on s'est connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'un inconnu. Bleu ou bien vert, tes yeux lumineux sont si clairs, ils m'ont mis la tête à l'envers sur un air de fête. Ah mes amis, ce fut une bien belle noce, le patron et ses huit gosses étaient venus en carrosse. Et maintenant, nous voilà clients pour longtemps de ce petit bal où l'amour, un soir en dansant, nous a réunis pour toute la vie.
Bonjour Micheline Dax.
Bonjour Benoît.
Je vous connaissais en siffleuse, en chanteuse lyrique, mais là, voilà une chanson de variété des années 50. Vous avez aussi enregistré ce répertoire-là. Très jolie chanson.
J'étais très jeune. Mais on ne peut plus le croire, vous voyez, c'est pas possible.
Vous êtes resté jeune.
Oui, tout à fait, mais enfin, là j'étais vraiment une gamine.
Comment est-ce que vous avez été amené à enregistrer comme ça, cette jolie chanson de Lemarque?
C'est donc Philippe Girard qui m'avait entendu dans Branquignol, je suppose. Il m'a dit, oh, je voudrais vous enregistrer. Je dis, ce type est fou, je ne sais pas quoi. Alors j'ai fait trois choses avec lui, Froufrou, Madame Arthur et la chanson de Francis Lemarque.
Vous connaissiez Francis Lemarque, grand monsieur de la chanson?
Oui, oh, puis il était délicieux cet homme.
En tout cas, Micheline Dax, moi je suis content. Je vous remercie d'être venu d'abord, pour la deuxième fois.
Oui, au moins, c'est pas tous les jours. Hein. Dieu merci, vous avez attendu, et moi aussi.
Quelques années, oui. Et je me suis dit qu'on allait continuer, parce qu'on est loin d'avoir eu le temps d'évoquer la dernière fois tous les aspects de votre carrière.
Et pour cause.
Et, oui. Et même le côté musical, qui est beaucoup plus riche que ce que je croyais. Ah, oui, oui. Parce que, voilà, j'ai dit, il y a eu l'opérette, il y a eu la musique sifflée, il y a la chanson, et puis le cabaret aussi, où j'ai trouvé des archives merveilleuses. Alors, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on évoque tout ça. Mais je voudrais revenir un tout petit peu à votre enfance. J'ai lu quelque part que dès l'âge de 3-4 ans, vous siffliez ou vous chantiez, vous fredonniez les opérettes à la maison.
Je chantais, je sifflais, pareil.
Ah bon ?
Et on disait, ne siffle pas. Petite fille, ça ne siffle pas, on me disait chez moi. Ça fait pleurer la Sainte Vierge.
Oui.
Alors je me suis dit, mon Dieu, cette femme, elle a déjà eu bien des ennuis, un peu plus, un peu moins. Je vais peut-être continuer.
Donc la musique, vous accrochez par la radio, par les disques qu'on écoutait chez vos parents ?
Oui. J'avais pas ma maman, mais elle était musicienne, ça c'est sûr. Donc mon papa faisait qu'on écoutait. Et bien moi j'ai eu une passion immédiate pour Yvonne Printemps.
Tout de suite.
Tout de suite. Et à l'époque j'avais des dons d'imitation, comme beaucoup d'enfants, hein, parce qu'on a beaucoup d'oreilles à cet âge-là. Et j'imitais Yvonne Printemps. Alors mon papa, ça lui faisait plaisir. Et comme la vie est bizarre, beaucoup plus tard, j'ai rencontré Madame Printemps.
La grande Yvonne.
Dans un restaurant. Elle est arrivée vers moi, vous savez qu'elle n'était pas d'une gentillesse.
Non,
avec
c'est
les
pas
femmes.
Sa réputation en tout cas.
Et elle me dit, alors vous, mademoiselle, vous, vous chantez bien. Je dis, mon Dieu, avec qui elle me confond? Je lui dis, vous êtes sûre que c'est moi, madame? Elle me dit, non, je suis pas gratteuse. Et Fresnay était là et il a dit cette chose admirable. C'est vrai, mademoiselle, vous êtes la seule femme que ma femme supporte.
Ah oui, c'est beau, hein, quand
c'était
même.
Joli. Et après, j'ai chanté les trois valses, enfin des extraits des trois valses, à la télévision, en direct, s'il vous plaît, le rêve. Et elle m'a regardé. Elle était contente. Alors, ça, c'est un compliment, je vais vous dire, je ne suis pas prêt d'oublier.
Bah non, je comprends.
Parce qu'il y en a d'autres qui me disaient que je chantais comme une savate, mais d'Yvonne Printemps, je ne peux pas vous dire comme ça m'a touché.
Et donc, Micheline Dax, oui, quand vous avez commencé à envisager de faire une carrière...
Je voulais faire du théâtre, et j'ai dit à mon papa que je voulais faire du théâtre, il m'a dit, ah, sûrement pas. Commence par la... Je voulais être pianiste, hein.
Ouais.
Et bon, j'ai raté mon coup. Et il m'a dit, je veux bien si tu fais d'abord de la musique. Tu n'as qu'à chanter. Alors, je suis allé voir plusieurs personnes qui m'ont dit que j'avais une voix tout à fait inodore et sans saveur. Je suis même tombé sur une dame qui était très célèbre, qui était Marguerite Carré, qui est dont le mari avait l'opéra. Alors, c'était des grandes divas, vous savez. Cette femme, elle m'a regardé. Mais d'où ça vient? Elle m'a méprisé tout de suite et j'ai voulu chanter un air d'opéra. Et elle m'a dit, mais ma pauvre petite, mais vous n'avez pas de vibrato. Voilà, je vais vous expliquer. Vous prenez un papier de toilette, vous le mettez devant vous et vous chantez. S'il ne bouge pas, vous ne serez jamais chanteur. Alors, ça n'a pas vibré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ça m'a permis de faire des voix d'enfant. Oui. C'est Henri Dutilleux, vous le
alors
savez.
Alors voilà, j'ai vu que vous avez rencontré alors, la grande chef de chœur, Yvonne Gouvernet.
Oui, qui était mon professeur après.
Voilà, qui était votre professeur.
Bah,
qui
vous a... extraordinaire.
Une grande dame dont on aime ici les enregistrements, mais qui vous a elle-même alors...
Elle a dit, je voudrais avoir une opinion, parce que j'avais cette voix grave en parlant, et j'étais soprane léger.
Ouais.
Elle m'a dit, je voudrais l'opinion d'un musicien sur votre voix. Et elle m'a fait un mot pour Henri Dutilleux, moi je croyais que c'était un vieux monsieur à barbe.
Oui, pas du tout.
Non,
il travaillait à la radio à l'époque.
Il avait vous savez, il avait la section musique.
Voilà.
À la maison de la radio qui venait de s'ouvrir. Et elle m'a fait un mot pour que j'aille voir M. Dutilleux. Me voilà parti, je revenais de vacances, j'étais noir, parce que alors je bronzais à l'époque, je ne vous dis pas. J'avais les cheveux presque jusqu'aux pieds, enfin bon, j'avais l'air d'une sauvage totale. Et j'arrive près de son bureau, il avait un garde-chiourme qui s'appelait Mademoiselle Champion. Elle me voit arriver, elle fait « qu'est-ce que vous voulez ?» Et j'étais, avec Mademoiselle Gouvernier, j'étais choriste. Alors vous connaissez les choristes, je les ai connus après, elles n'avaient pas 20 ans. Et mon Dieu, on n'était pas tellement bien vus, les plus jeunes.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Alors, Mademoiselle Champion dit, vous êtes qui, vous? Je dis, je travaille avec Mademoiselle Gouvernet. Comment? Oui, je suis dans la chorale. Ah bon? Et vous venez voir qui? Ben, Monsieur Dutilleux. Sûrement pas. Je vous dis sûrement oui. J'ai un mot de Mademoiselle Gouvernet, il veut me voir. Ah bon? Donnez-moi ça. Déjà que j'avais une trouille atroce, ça vous arrange, hein? Alors, elle est revenue, elle m'a fait... Oui, oui, là, vous pouvez entrer. Je suis entré, j'ai vu un jeune homme. Mon Dieu, mais c'est pas vrai. Et lui, il voit quoi? Il m'a dit, j'ai cru que vous étiez Carmen et vous alliez faire sauter mes vitres dans le bureau. Et je lui dis, voilà, j'étais chanteuse d'église, déjà.
Ouais.
Je chantais les mariages et les premières communions, jamais les enterrements, Dieu soit béni. Alors... Je lui ai apporté un cantique qui s'appelait « En prière » de Fauré, où il y avait un petit garçon qui chantait. Je lui mets ça sur son piano, il est un peu étonné. Il me dit « je vous écoute », il commence à m'accompagner, il entend cette petite voix furtive, il s'arrête et moi je pleure comme un veau. Il me dit « excusez-moi », je dis « c'est chaque fois comme ça ». Et il m'a dit « vous savez, il faudrait que vous entriez à la radio à l'époque ». Je vais vous étonner, il fallait passer un examen pour passer à la radio. Ça a beaucoup changé, comme vous savez. Et l'examen se passait comme ça. On chantait dans un studio et le jury nous écoutait dans un autre studio sans savoir qui était quoi. On avait un numéro. Alors je suis passé et puis j'ai été refusé avec emploi limité, ce qui était très juste. Et Henri m'a dit « on va trouver un autre truc ». Et il m'a fait faire le folklore.
Vous avez été classé en folklore.
J'ai chanté une chanson débile. Jeanneton, machin, machin. Et voilà que je suis reçu à l'unanimité. L'unanimité voulait dire que j'allais me présenter au jury pour les remercier. J'étais toujours noir et chevelu. Quand je suis arrivé dans dans les studios, le président du concours fait « une erreur, mademoiselle. Vous n'êtes pas le numéro 27. » Mais si, c'est vous qui avez chanté « Jeanneton, malala ». Oui, monsieur, aucun commentaire. Mais j'ai eu ma carte. C'est comme ça que j'ai pu chanter à la radio.
C'est formidable.
À la même... Et c'est Henri qui m'a envoyé chez Gérard Calvi, que je connaissais sous un autre nom, Grégoire Cretly, puisqu'il était le fils de ce violoniste qui avait le quatuor.
Et Calvi, c'est l'arrivée donc dans les Branquignoles. Alors, on va évoquer évidemment les Branquignoles, mais on va d'abord écouter un petit extrait de la bande originale du premier film donc des Branquignoles, dans lequel vous êtes en 1949.
T'as raison.
Aucun des personnages du drame auquel vous allez assister n'est fictif. Le nom propre de chacun d'eux a été respecté. Nous remercions publiquement ces héros qui ont bien voulu revivre pour vous sur cet écran leur effroyable et authentique aventure. Ce film a été intégralement exécuté en couleur 100% naturelle. Mais grâce aux remarquables travaux de notre ami Nicéphore Niépce, 1765-1833, il va vous être présenté exceptionnellement en noir et blanc. Monsieur.
Je ne l'ai pas fait exprès. Enfin, je...
Micheline Dax, vous avez fait donc partie des premiers Branquignoles.
Je pense bien que j'étais chanteuse.
Voilà.
Donc c'est Calvi qui m'avait entendu grâce à Henri Dutilleux, qui m'a dit « Oh, j'ai un copain qui monte un spectacle. Peut-être, je vais vous présenter. » Alors il m'a amené devant des rires que je ne connaissais pas. Moi j'étais d'un autre secteur, j'étais que chanteuse. Hein.
Ouais.
Et il a dit « Voilà, elle chante, etc. » Et Derry m'a regardé, il a dit cette chose énigmatique « Elle a l'œil triste, ça ira. » Moi qui rêvais de jouer une tragédie, je suis rentré, j'ai dit à mon papa, je vais jouer une pièce dramatique avec de la musique. Et c'était Branquignoles. Quand mon papa est venu voir le spectacle, il m'a dit, mais ma pauvre petite, tout le monde rit quand tu chantes, je sais. Je dis, mais dans quelle situation?
C'était en 1948,
le premier spectacle
des Branquignoles. Personne ne s'attendait à ce que cette chose étrange devienne un immense succès.
Ah non, mais personne, même pas Derry. Il n'était pas là. Hein. Il jouait une pièce aux Ambassadeurs, qui est maintenant Cardin. Et Colette était en train de mettre sa fille au monde.
Brossé, même
tous les ans, on fête et la naissance de Branquignoles et de Catherine. Alors c'est rigolo quand même.
Voilà.
Et alors moi, j'étais l'étrangère, ils m'en ont fait voir, je vous dis pas comme. Et à l'époque, j'étais vraiment, je n'avais aucun humour. J'ai pas ri du tout. Ils me faisaient peur, ces gens.
Ah oui?
Ils m'ont fait pleurer pendant un an.
Vous étiez intimidé par les autres, ah oui?
Mais je les comprenais pas.
Ah oui?
C'était un autre langage. Eux, ils étaient copains depuis toujours. Moi, je suis arrivé. Ils me faisaient peur, je vous assure. Je les croyais fous. J'avais pas complètement tort. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a joué 3 ans. Enfin, moi, j'ai joué 3 ans avec eux, puis eux, ils sont allés triompher en Angleterre, en Amérique. Et moi, j'ai arrêté pour faire autre chose. Et 25 ans plus tard, ce qui est unique dans les annales du théâtre, 25 ans plus tard, le téléphone sonne un matin. Derry, bonjour ma grande. Il ne me parlait plus depuis 25 ans, hein, parce que vous avez quitté. Oui, on reprend Branquignol. Est-ce que tu serais partante avec nous? Ben, j'ai réfléchi une seconde, j'avais rien de spécial. Je dis oui. Ah, voilà. Au La Bruyère, nous la repart. C'est unique, ça. Et on a refait 3 ans, et il y avait 3 générations dans la salle, et les jeunes nous disaient, c'est nouveau ce que vous faites. Oui, il y a 25 ans, c'est vrai.
Pour rester au côté musical des Branquignols, comment ça se passait dans le travail avec Gérard Calvi?
Difficilement.
Ah oui?
Il ne me pardonnait rien. On s'est fâché, je vous dis pas, en 3 ans, combien de fois.
Ah oui, il était exigeant.
Qu'est-ce que tu fais avec tes oreilles? J'ai dit, je t'écoute et j'ai tort. Alors, on se parlait plus pendant 6 mois.
Et dans toutes ces années-là, alors vous avez commencé donc aussi, Micheline Dax, à faire la tournée des cabarets et à présenter vos numéros.
On en faisait 3, 4, 6 par soir.
Ça veut dire que petit à petit, vous aviez accepté l'idée que vous étiez là aussi pour faire rire le public, donc.
Oui, mais ça m'a étonné parce que moi, je ne savais pas que je pouvais faire ça, bien entendu. D'ailleurs, les gens vous le diront, on ne peut pas penser ça, qu'on va faire rire. Moi, ça me faisait rire un peu. Il y avait des gens qui me faisaient rire d'abord. Et puis bon, pour moi, mais mon papa, je lui avais pas dit ce que je faisais. Je ne répétais jamais chez moi. Je répétais des chansons. Et puis, les textes que je m'écrivais moi, jamais n'en ai entendu un mot. Et puis, il y a eu la première chez Gilles.
Voilà, alors vous avez chanté dans le cabaret de Gilles, du duo célèbre Gilles et Julien.
Gilles, j'ai dit à mon papa, tu viens pas à la première, je déteste ça. Il m'a dit non, non. Naturellement, il est venu en douce. Et il a dit à monsieur de la Palmyra qui dirigeait cet établissement, cachez-moi dans un coin. Parce que nous avions des rapports un peu fluctuants avec mon papa. Et je ne l'ai pas vu, et j'ai fait, à l'époque, je vous le dis franchement, mais j'ai éclaté, comme on dit maintenant. Ouais. C'est incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Alors, je vous dis pas, les journalistes, enfin, j'étais un phénomène. Ouais. Et puis bon, j'ai appelé mon papa parce que je lui avais dit, je t'appellerai après. Et alors, je lui dis, voilà, c'est fini, papa. Il me dit, ça c'est... Il était parti vite fait. Ça s'est bien passé, je dis, pas mal. Comment pas mal? J'étais là.
Grâce à notre ami Mathieu Moulin, on peut quand même d'ailleurs retrouver sur un disque de Marianne Mélodie des enregistrements de cette époque du cabaret.
Et oui, hein, il m'a fait ça, un tri de plusieurs. Oui, il est adorable.
Des choses
garçon.
Comme votre chanson d'entrée, Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, accompagnée toujours par Alain Evans.
C'est Delanoë et Franck Gérald, son beau-frère, qui m'avait écrit ça.
Et puis aussi, alors, dans ce disque qu'on peut toujours trouver, je pense, qui est un petit florilège de Micheline Dax, il y a un numéro très très drôle, je ne sais pas si vous le donniez déjà dans les cabarets à l'époque, qui est une parodie de la célèbre air de soprano colorato,
oui,
enregistrée notamment par
La Villanelle de Delacroix.
Voilà, La Villanelle de Delacroix.
Comme je chantais ça chez moi, je le travaillais comme tous les sopranes, et je me disais, mais mes pauvres voisins, ils doivent en avoir marre. J'ai eu l'idée de faire un sketch que j'ai fait pas longtemps, mais je l'ai pas fait longtemps du tout. Et là, je sais plus si c'était pour une télé. Ouais. C'est important ce que je vous dis. Pourquoi c'était... J'ai fait ce sketch. Et le lendemain matin, le téléphone sonne et monsieur Chalon, René Chalon qui dirigeait
Pâté Marconi. Grand ingénieur du son, enfin directeur artistique.
Tout à fait. Il m'appelle, il me dit, mademoiselle, vous êtes ma veuve. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit cet homme? Mais de quoi parlez-vous? Il me dit, je vous ai vu et je vous ai entendu hier. La Veuve Joyeuse, j'enregistre, c'est avec vous.
Et c'est après avoir entendu cette plaisanterie musicale.
C'était extraordinaire, parce qu'il y avait 2 contrutes.
Bon, alors on va l'écouter d'abord. J'ai vu passer les rondelles, un enregistrement public inédit de Micheline Dax.
Ça, très inédit.
Vous, je vais vous sentir, c'est vous passer des rondelles. Et que vous ne le regretterez pas. Que c'est un bon moment pour vous. Tiens, que si je suis contente, parce que c'est bien fait plaisir, moi je suis bonne fille, c'est ça, on se le fait pas. Ah non, écoutez, c'est pas la mauvaise humeur que c'est, mon caprice, il est que pour dans un quart d'heure, c'est tout le temps, hein. Mais écoutez, vous savoir quelque chose. Vous appelez ça un pianiste, cherchez-vous. Ah, écoutez, moi j'ai fait le tour du monde, moi j'ai vu toutes les horreurs possibles et imaginables, hein. Moi jamais j'ai vu une chose pareille, moi je sais pas que ce garçon que je l'appellerais, si je l'avais rencontré ailleurs, je sais pas moi, un dactylo, pourquoi se sert de ses mains, c'est pas nécessaire, hein. Et vous là-bas, mon petit garçon, c'est trop tard pour faire les gammes, hein. Fallait faire ça il y a 10 ans. à la maison. De cuire les filles, il a mis la faciès, ce garçon-là. Il a mis la barbe, c'est pour cacher tout ça, on le voit bien. Oh, mais des sournois, cet enfant-là. Enfin, ça fait rien, je dis un bonjour, je regarde, hein. Sinon, il est déjà en vestiaire, tiens. J'ai fait passer les rondelles, mais dans les yeux du matin, et dans les têtes, il le dit. Quand je me vois comme ça, que je suis enfant, moi, dès que je suis enfant, quand je me vois comme ça, gamine et tout, que je peux rien faire pour... Écoutez, monsieur, à défaut d'autre sauce, retirez pas votre barbe, mais remouez pas votre grosse tête pleine d'eau comme ça, ça me donne mal de mer. Mais écoutez, je ne prends pas le bateau à cause de ça, alors épargnez-moi, non. Donnez-moi la note, vous êtes imprudente et tout. Vous appelez ça une note, vous?
Oui.
Vous appelez ça une facture, moi. Et douloureuse. Oh, ça va rien, c'est pas celle-là que je prends, moi je suis pas folle, tiens. J'ai longtemps suivi les yeux, le vol de la voyageuse. Depuis mon âme refuse, la compagne dans les cieux. Bonne chose de fait, quand j'arrive là, je fatigue, moi je vous le dis, à ce morceau, c'est l'enfer. Ah, moi je sais pas qui c'est qui l'a inventé, mais. L'autre sauce. Il n'est pas tombé loin, celui-là. Et j'aurais voulu, comme lui, suivre le même chose. Ça ne vous dérange pas que je travaille. Non. Alors, donc, là, hein, oula, attention que j'ai un doute tout à coup. Vous avez bien compris que c'est une hirondelle que je cause. Ah, non, mais vous dire pourquoi c'est important. C'est qu'il y en a 8 passes comme ça. Alors, faut vous y faire tout de suite. Moi, vous l'avez dit que ce serait un bon moment. Mais j'ai pas dit combien il dure. C'est la surprise! Il nous dit de partir, hein? Des sorties de secours fermées à clé, moi pas folle, j'y vais coup! Et la clé, je l'ai là! Alors pour la prendre, il faut d'abord me passer sur le corps. Alors là, c'est si bien tranquille, va! Grossier, ils savent plus vivre, ces gens-là. J'ai vu passer l'hirondelle, Par maman? Que c'est mes demandes que je vais chercher tout ça, moi. Non. Je vous assure que j'ai cherché la réponse et que je n'ai pas trouvé. Je vous dis que si, que ça va coudre, je vous la donne. C'est que le bon Dieu, il fait bien ses créatures. Tu ne nommes personne. Comprends qui veut. Trop tard, je vous le mets, si laissez tomber, c'est l'habitude. En tout cas, je vous rattraperai, vous. Essayez de rattraper moi de la façon dont j'ai attrapé. Hein? J'ai vu passer l'hirondelle. Ça me sacoule. C'est pas pour vous dire que ça fait dans la glotte quand il fait comme ça. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, qu'il est méchant. Je le savais bien qu'il était vilain, ce petit-là, quand je suis entrée. Il irait me voir pour autre sauce à mon bureau, hein. Faut les amadouer, quand même, hein. J'ai fait passer... Ouah, qu'elle vole pas, c'est signe de pluie, ma jante, tout de suite, hein.
Michel Dax, vous connaissez l'enregistrement de Mado Robin de ce
Oh, bien sûr. Vous aimez je connaissais bien très bien Mado Robin.
Ah bon?
Elle avait une voix divine. Oui, puis c'était une femme formidable.
Mais c'est pas elle qui vous a servi de modèle pour cette cantatrice déjantée,
non,
là,
non, pas
avec
du
un
tout.
Petit accent d'ailleurs. Hein.
Non, mais j'imite la Calasse quand elle faisait des caprices, soi-disant, la pauvre.
Voilà, c'était un peu une parodie de Calasse.
Oui,
on est
voilà.
Encore dans les grandes années.
Qui engueule le pianiste.
Mais alors finalement, Michel Dax, avec à la fois l'amour de la musique, le métier, le sens de l'humour, vous étiez destiné à faire de l'opérette. C'est même presque étonnant que vous n'en ayez pas fait plus que ça.
Si, il y a une raison, c'est parce que j'avais une voix de soprane et que je parlais avec une voix grave. Et
ah,
que ça ne
oui,
coïncidait pas.
Oui, ça a toujours surpris tout le monde,
bah
ça.
Oui. Hein. Et moi-même. Et quand j'ai enregistré La Veuve, Eh bien, j'ai monté un peu ma voix pour le texte, parce que, évidemment, il y a une très grande différence.
Ah, voilà.
J'étais vraiment soprano léger, comme vous venez de l'entendre.
Mais enfin, il faut quand même dire que, bien avant cette Veuve Joyeuse, sur laquelle on va revenir, vous avez quand même fait un peu d'opérette, et notamment dans la fameuse production de La Vie Parisienne, de Renaud Barrault.
Vous avez repris, beaux souvenirs.
Voilà.
Hein.
Vous avez repris le rôle de Metella, qu'avait d'abord créé Suzy Delair.
Suzy Delair, qui voulait faire un film.
Voilà.
Elle est venue chez Gilles, où je me produisais. Elle est arrivée dans le cabaret, j'étais en train de chanter dans mon tour, et elle a fait « Voilà une femme qui chante bien
!»
C'est foutu, quoi. Alors là, la soirée est finie. Et elle m'a dit « Voilà, je vais faire un film, et il faut que j'arrête. Voulez-vous reprendre Metella demain, moi ?» Quand vous voulez. Même pas 8 jours, hein.
Et finalement, donc ça a été
extraordinaire.
Vous.
Écoutez, ça a été un moment. Les décors, les costumes de Jean-Denis Malclès, des splendeurs.
Ouais.
La mise en scène de Barrault, tous les interprètes, Pierre Bertin, Denise Benoît, qui était exquise, Paredes, écoutez.
Paredes, c'est extraordinaire.
J'ai été gâté. Hein.
Entre la Vie Parisienne et La Veuve Joyeuse, vous n'avez pas fait d'autres opérettes, donc.
Si, j'ai fait l'opérette que Françoise Dorin avait faite avec Bowling, qui s'appelle Monsieur Pompadour.
Bien sûr.
Avec Jean-Richard, Guétaru.
Et Jean-Richard, que vous connaissiez d'ailleurs depuis l'époque des Branquignoles aussi.
Bien sûr. Bah, c'est lui qui a sauvé le théâtre de la Bruyère, voilà. Avec Jean Herbert. Ce truc devait être. Ça s'appelait la salle des annales, ça devait être rasé. Et ils n'avaient pas un rond pour monter ça. Alors, ils ont pris le principe d'une soirée ratée dans un petit village, vous voyez. On avait comme éclairage, c'était des lampions. C'était très bien conçu. Hein. Il y avait des gens comme Duvalex.
Parlez-nous un peu justement, Micheline Dax, des Duvalex père et fils.
Père et fils.
Mais
le fils,
un peu oublié aujourd'hui.
Le fils avait un côté déjanté complètement, comme on dirait maintenant. Il était un peu fou, mais d'une folie réelle. Moi, j'aime pas les gens qui inventent la folie. Ouais. Lui, il avait des moments, mais je vous assure. Il nous en a fait voir. Hein.
C'était Christian Duvalex.
Christian,
donc, voilà.
Qui était dans Branquignol.
Voilà, qui était dans
Branquignol. Et en même temps, c'était un passionné des astres. C'était un astronome. Il a découvert une étoile. Mais il était totalement foldingue, quoi. Ouais. Elle était très chic, toujours un petit costume, 3 pièces. Et alors, à un moment, il s'est mis. Il avait une louche dans sa poche. Alors, on lui disait pourquoi. Il disait parce que.
Ben oui.
Il est passé avec De Vos chez Chancel, écoutez, avec sa louche. C'est à ne pas croire.
Et Duvalex père, vous l'avez croisé?
Oui, très charmant. Oui.
Grand chanteur de
lui, il a joué, et puis un comédien merveilleux. Il a joué dans La Poison avec Michel Simon,
bien sûr,
le
la film
de Guitry.
Oui.
Il faisait le prêtre, vous savez.
À propos de l'opérette, je sais, Micheline Dax, que vous aimez beaucoup Nathalie Dessay, par exemple, dans son enregistrement d'Orphée aux Enfers.
Non,
hein.
Mais ça, j'ai joué à la télé. Mais elle a écouté cette petite. Voilà, la première fois que je l'ai entendue, j'ai sangloté. Non, mais c'est tout ce qu'on aime.
Ouais.
Une voix d'une pureté, d'une justesse. Moi, ce qui m'embête maintenant, c'est que j'entends plein de gens qui chantent pas juste. Et ça m'énerve. Alors, il y a elle et Cécilia Bartoli, parce que tout ça, ce sont des perfections.
Voilà. Ah oui, vous suivez tout ça avec intérêt.
Ah
donc,
je n'aime que ça au monde.
Ah
la
oui.
musique, c'est quand même tout ce que j'ai aimé.
Ça tourne chez vous quand vous êtes toute seule.
Puis dès qu'elle passe à la télé, je ne bouge plus un doigt de pied.
Et dans cet enregistrement de La Veuve Joyeuse, alors qu'on va écouter maintenant un extrait, vous aviez aussi un
Michel
partenaire
Danse.
Extraordinaire.
Alors lui, en alors, plus, je vous dis, il aurait pu dire « qu'est-ce que c'est que cette bonne femme ?»
Ouais.
J'en veux pas.
Ouais.
Il m'a adopté. Parce que quand je suis allé, vous savez, j'ai enregistré La Veuve à la salle Wagram, qui se trouve rue Montenotte. J'ai trouvé que c'est pas bête d'aller chanter là.
Oui, rue Montenotte.
Mais la Calas a beaucoup enregistré là-bas. C'était une salle énorme, magnifique. Ouais. Il y avait donc 40 musiciens et des choristes, dont Jean-Christophe Benoît, Michel Roux de l'Opéra, André Malabrera.
Denise Benoît encore, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, oh, que j'ai aimé cette femme. Et alors, quand j'ai traversé la salle, on était tout au fond, nous. Le chef d'orchestre, bon, je ne dis pas son nom parce que... Lui, alors, il m'a dit... je suis arrivé à ma place. Alors, vous savez, on a un téléphone quand on enregistre. Parce que M. Chaland, qui est au premier étage, vous dit, on reprend à tel machin. Bon, je traverse et le chef d'orchestre me dit, de sa place, « Dites-moi, mademoiselle, vous savez lire la musique ?»
Agréable.
Je lui dis, attendez, mais vous me donnez un doute. Monsieur Chaland, alors, il est gâteux ou quoi? C'est lui qui m'a engagé. Oui, mais enfin, Je dis, écoutez, monsieur, il me dit, vous me voyez bien. Je dis, oui, j'en perds pas une. On ne s'est plus parlé, jamais.
Danse a été gentil, lui.
Mais plus que gentil, on est devenu très amis. C'est un amour, il m'a dit, j'aurais voulu le jouer avec toi sur scène. J'ai dit, je n'aurais pas pu, je te le dis franchement, parce qu'il fallait un coffre. Hein. Mais que j'ai aimé cet homme.
C'était en 1967, la Société des concerts du Conservatoire.
Ça, c'était un cadeau. Hein.
Je ne dis pas le nom du chef, donc. Hein.
Non, pas du tout.
Et puis alors,
j'ai joué aussi une opérette de Michel France que vous avez reçue récemment qui s'appelait La Comtesse Dracula. Là, je chante avec ma voix grave. J'étais devenu basse noble, subitement. Je le disais dans mon tour, j'ai passé dans un courant d'air. Depuis, je suis basse noble. Et j'ai pu chanter. Mais c'est Michel qui avait réalisé que j'avais plus de voix, ma petite voix haute. On devait faire une émission ensemble. Ouais. Et je suis allé répéter chez lui. Il m'a dit, mais tu n'as plus de voix. Essaie donc avec ta voix parler. Et je l'ai fait.
Voilà. Et elle est bien, cette voix grave?
Bah, plus maintenant, j'ai plus rien du tout. Faut pas rêver.
Et alors, dans les personnages avec lesquels vous avez travaillé, alors, au théâtre et au cinéma, il y en a deux que je voudrais évoquer. D'abord parce qu'ils me sont très chers et puis parce qu'ils sont présents toujours dans cette émission. Le premier, bon, ça ne rajeunit pas, mais quand même, évoquons-le. D'autant plus que vous jouiez, le rôle d'une chanteuse, c'est Sacha Guitry.
Oui.
Pour lequel vous avez incarné Yvette Guilbert.
Oui, mais alors là, écoutez, je vais vous dire, c'est trop drôle. Je jouais une pièce assez minable et puis mon papa, à l'époque, je lui interdisais de m'appeler au théâtre. J'arrive au théâtre, on me dit, ton père a appelé. Ah ben sûrement pas, voilà, ça commençait comme ça. À l'entracte, parce qu'à l'époque, il y avait des entractes. Ton père a rappelé. Il n'en est pas question. À la fin, ton père vient de rappeler. Me voilà, je vais au téléphone, je l'engueule. Hein.
Ouais.
Mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, monsieur Sacha Guitry vient de t'appeler. Je dis, c'est ça, oui. Voilà. Et le pape vient déjeuner. D'accord, j'ai compris. J'ai cru que c'était une plaisanterie. Il m'a donné le téléphone qui commençait par invalide.
Ouais. Ah, ouais, c'était le quartier.
Ben, carrément. Alors, je suis allé dans un bistrot, il était déjà minuit. Et j'ai appelé, j'ai entendu cette voix.
Vous avez parlé directement à Sacha?
Ah ben oui. Ouais. Inimitable, qu'on essayait d'imiter tout le temps. Ouais. Et alors, c'était Valton qui l'imitait le mieux. J'avais dit à mon père, tu diras Valton qu'il me foute la paix. Et alors, j'ai monsieur Guitry, et je lui dis, maître, je vous prie de m'excuser, mais j'ai cru que c'était une blague. Il dit, je suis habitué. Vous avez cru que c'était Valton. Il nous connaissait tous, c'est magnifique. Et il m'a dit, est-ce que vous connaissez Yvette Guilbert? Je dis, je commence bien. Vous connaissez le fiacre, là, sur ce disque, vous l'avez?
Ouais.
Eh ben oui, je viens de l'enregistrer. Oh! Eh bien, voulez-vous être mon niveau de vie? Je dis, bien sûr. Il me dit, les costumes sont prêts, tout ça. Et il était minuit. J'ai dit, c'est quand? Il m'a dit, demain matin.
Ah bon?
Et je dis, à quelle heure? Alors là, mon cher ami, j'ai eu un numéro. Merci, voilà, vous êtes une véritable artiste. Il y en a qui m'auraient dit à 9h, dites donc, c'est un peu léger. J'y suis allé folle de bonheur. Mais alors, si vous voyez le film, vous entendez un fiacre à l'étroitinant, jaune avec un cocher blanc, pouf, c'est fini. C'est, et j'avais enregistré toute la journée, tous les couplets, tous les refrains. Mais il était comme ça, il avait toujours peur de manquer de quelque chose. Ouais. Il était déjà dans sa petite voiture, le pauvre. Mais j'ai vu ses yeux, et ça, moi, je rêvais de rencontrer ses yeux.
À revoir dans Si Paris nous était compté, hein, c'était en 1955. Et puis, alors, un autre personnage que j'aime beaucoup, parce qu'il est à la fois, évidemment, réalisateur de cinéma, mais aussi auteur de chansons et d'opérettes, c'est Jean Boyer.
Ah oui, j'ai adoré. Alors, vous savez, j'ai eu ma fille, j'ai accouché de ma petite fille. Et j'ai tourné le film avec Jean Boyer, qui n'était pas un chef-d'œuvre, mais lui était un être exquis.
Avec, c'est pas moi, avec c'est l'autre.
Oui, c'est pas moi, c'est lui, Fernand Reynaud, Poiret, tout ça. Écoutez, c'était délirant. Alors, j'étais un petit peu fatigué. Il faisait de temps en temps une chaise pour la jeune mère. On a beaucoup ri là. Vous savez, j'ai eu de la chance. J'ai tourné aussi
avec
Poiret, Céro. Non, non, mais plusieurs fois. Mais pas des chefs-d'œuvre, hélas.
Alors, on va peut-être écouter juste un petit peu de piano pour vous faire plaisir et en hommage à quelqu'un que vous aimez beaucoup. On en parle tout de suite après. Voilà, pour fêter l'année Chopin, une mazurka merveilleusement jouée par votre grand ami, François
là,
René Duchâble.
C'est pas mon ami. J'ai rencontré sa maman, mais lui, non.
Ah bon,
mais,
oui, vous en l'admirez tournée, simplement.
Je suis captivé, vous voulez dire.
Ah oui.
Écoutez, je connais beaucoup de très bons pianistes, c'est vrai, mais celui-là, il a quelque chose de, je ne sais pas, de spécial.
Vous avez d'ailleurs vous-même travaillé plusieurs fois avec des pianistes, c'est votre amour de la musique, par exemple avec Philippe Cassard dans des festivals,
voilà,
vous avez donné des mélanges de textes et de musique.
Voilà, c'est ça, oui.
Ouais.
Je chantais, tout ça. Bah, tu penses, Ah, mais dès qu'il y a de la musique, moi, je suis cliente. Hein.
Alors, on en avait beaucoup parlé quand vous étiez venu il y a 7 ou 8 ans. Mais alors,
Dieu,
Il y a évidemment tout un aspect de votre carrière, c'est le sifflement, sur lequel il faut au moins qu'on revienne un petit peu. Parce que souvent, quand on parle de cet art-là, tout le monde prononce votre nom. Et alors, l'autre jour, avec quelqu'un me demandait, mais est-ce que tu pourrais lui demander comment ça se travaille? Comment est-ce qu'on fait pour est-ce que vous faites des gammes? Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce qu'il y a des professeurs, des exercices pour bien siffler?
Mais rien du tout. Alors là, c'est le drame. Moi, je suis bosseuse. Hein.
Oui.
Le drame de ma vie, c'est que je n'ai jamais appris ça. Je faisais ça à 3 ans, pareil.
Oui.
Et tout ce que j'entendais, je le sifflais après. Ouais. Mais exactement avec la même tessiture, ce qui est quand même bizarre, quoi. Et personne chez moi, en tout cas moi, je sais pas, j'ai pas connu ma maman, peut-être qu'elle le faisait aussi, mais on me l'a pas dit.
C'est ça.
Et chez moi, mon frère non, mon père non.
Il y a pas eu, vous n'avez pas eu de professeur?
Jamais. On m'a demandé d'être professeur. Ah mais oui. Je suis incapable, je sais pas comment je fais.
Ah oui, c'est
comment
ça.
Voulez-vous que je dise aux autres comment je fais? J'en sais rien.
Ah, parmi d'ailleurs les premiers qui vous ont entendu siffler, il y a eu Joseph Cosma, je crois.
Comment je pense bien?
Ouais. Et comment ça s'est passé? C'est par hasard, vous siffliez comme ça pour le
non,
plaisir?
Je sifflais les feuilles mortes.
Ah oui.
Chez Gilles.
Chez Gilles, toujours au cabaret. Voilà.
Et un soir, Joseph Cosma a débarqué et il m'a dit « Vous êtes l'instrument que je cherchais depuis toujours. » Je dis « Il est à vous. » Il m'a dit « Est-ce que je peux composer des musiques ?»« Ah là, pas demain !» Et donc, j'ai fait plusieurs musiques de films avec lui.
Et Jean Giono?
Oui, ça a été une autre histoire.
Ça a été moins facile. Il aimait pas ça, Jean Giono.
Ah non, c'est inouï l'histoire de Jean. J'ai le temps ou pas?
Bah, pour le plaisir.
J'étais chez moi, le téléphone sonne. Joseph, qui est la timidité même, il me dit voilà, je suis avec Monsieur Giono qui écrit un film pour Monsieur Fernandez et il voudrait un instrument. C'est l'époque, vous savez, il y avait eu des instruments un peu spéciaux. Il voudrait dès que Fernandez arrive, qu'il faudrait quelqu'un qui siffle. Alors bon, je le vois, je dis, si vous voulez. Non, mais il dit, voilà. Je lui ai fait entendre, et l'autre lui a dit, je ne vous parle pas de quelqu'un qui siffle son chien. Il n'y a pas quelqu'un qui sifflerait une mélodie. Alors j'avais un petit 45 tours que personne n'a jamais entendu. Il lui passe ça, il fait, écoutez, Joseph, ne perdons pas de temps, faites venir ce monsieur. Alors là, le drame. C'est-à-dire, ce n'est pas exactement un monsieur. Il se trouve qu'il était misogyne à un degré grave.
Ah oui.
Il a dit, qu'est-ce que vous appelez? Pas exactement un monsieur. Eh bien, c'est une comédienne, elle chante et elle fait ça. D'ailleurs, il paraît qu'il y a eu un grand silence, puis il a dit, faites l'avenir. Je suis arrivé, il m'a pas dit bonjour ni rien du tout. Il a dit à Cosma, jouez ça. Alors, j'ai sifflé trois mesures, il a fait ça tout à fait. Ni au revoir, ni rien. Et quand je suis venu enregistrer le lendemain, s'il vous plaît, avec un orchestre, Cosma était sur une estrade, moi je suis monté à ma place, et Monsieur Giono a pris sa chaise, il est venu en dessous, vous savez, de l'estrade, et il m'a regardé siffler, il m'a complètement démoli, et il ne m'a pas dit ni merci, ni au revoir, ni bravo, donc moi j'étais décontenancé à la fin, j'ai dit à Joseph, ça lui a pas plu, si, quand il dit rien, il est content, alors faut déjà se faire à ça, je ris parce que ça passe souvent au Crésus.
Voilà,
à la
le film,
télé.
C'est Crésus, oui, voilà. Hein, voilà.
Film c'est de Jean-Jean. J'en ai fait d'autres, hein, mais dont on n'a jamais parlé.
Vous avez fait beaucoup de disques.
Non, mais dans
des
films, j'en ai fait.
Effectivement. Et puis, vous avez travaillé aussi avec des artistes de variété moderne, comme William Scheller.
Ah, alors là, c'est encore une autre histoire.
Voilà,
William, je ne le connaissais que par sa musique, mais je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais rencontré. Et puis, on a un ami commun, Pierre, qui me dit, dis donc, il avait un restaurant, nous sommes allés avec Véronique, ma fille, et elle me dit en entrant, tu as vu, il y a William Scheller tout seul, toujours à une table, tout seul. Ouais. Et notre ami arrive, il dit, je vais vous présenter William. Nous, toutes les deux, hein, on n'était pas à l'aise, et puis on salue William, c'est tout, puis on s'en va. Et le lendemain, mon ami m'appelle, il me dit, dis donc, il t'a entendu siffler, je ne sais pas où, et il veut t'écrire quelque chose. Je dis, oui, sûrement, bien sûr, tu penses. Et quelques jours après, le téléphone sonne, bonjour, William Scheller. Ah oui, il dit voilà, j'ai écrit quelque chose, je voudrais savoir si ça peut vous plaire. Oh, ça vous ennuierait de venir chez moi, je l'ai enregistré sur une cassette. Oh, je suis arrivé là-bas, on était pétrifiés tous les deux, il me passe cette cassette, il me dit ce que j'ai écrit pour vous, c'est la flûte qui le joue, mais c'est pas pour la flûte, c'est pour vous. Ah bon, c'est sublime. Et alors, il me dit voilà, je vous donne la cassette, à la plage d'après, c'est l'accompagnement. Vous connaissez William, l'accompagnement.
Ouais.
Il n'y a plus une note de la mélodie, plus une. Allez vous faire fiche, hein. Alors j'ai pris la cassette et il me fait, je pars en tournée. Ah ben d'accord, et je vais répéter quand même, c'est pas grave, on fera ça. Quand je rentre, c'était pour l'Olympia, s'il vous plaît, avec lui.
Ouais.
Ça s'appelait les Olympiades, d'ailleurs.
Les Olympiades.
Et quand il est rentré, il m'appelle, il me dit, ça vous ennuierait de venir répéter ce soir à l'Olympia? Au dernier étage, mais il n'y a pas de micro. Je dis, ben, c'est pas la peine. Si. Et tous mes petits musiciens savent par cœur. Je dis, mais moi pas, ça ne fait rien. On s'arrangera. Je suis allé répéter. Il dit, ça ira très bien. On passait le lendemain. Et on a fait, comme on dit, la balance, hein, à 5h de l'après-midi pour siffler le soir. Et la salle était pleine à craquer, vous pensez, hein. Et on m'a poussé, parce que je voulais plus rentrer. On m'a poussé. Et puis, j'arrive la vie. Il vous annonçait pas en disant, et voici madame machin. Vous savez, c'est pas le genre. Il a dit, je lui mets un pupitre parce qu'elle veut lire la musique. Et je lui mets un verre d'eau, ça peut lui servir. Bon, alors les gens commençaient à dire, c'est qui? Il a dit mon nom tout doucement. Alors, il y a eu un frisbee, je peux vous dire. Je suis entrée plus morte que vive. Et puis, il m'a dit, voilà, moi, je dirige l'orchestre. Vous vous débrouillez avec votre... Alors, j'ai commencé à siffler. Il y a eu un petit... Et plus rien. Rarement entendu, si j'ose dire, un silence pareil.
Et le disque en témoigne, parce que ça existe.
C'est incroyable, vous avez vu à la fin.
C'est très, très beau.
Et à la fin, on compte trois et la salle croule. Et moi, j'étais déjà dans la loge. Il est venu me chercher, il m'a dit, il faut que tu salues. J'ai dit, je peux pas. Ma fille, qui était dans la salle, qui m'a entendu siffler depuis qu'elle est née, ça lui faisait ni chaud ni froid. Elle arrive dans ma loge en larmes. Je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle me dit, c'est tellement beau, maman. Je dis, tu es fou de moi. Mais c'était William et c'était l'Olympia.
Alors, on vous retrouve maintenant, non pas avec William Scheller, mais dans une très jolie mélodie intitulée « Tant que je vivrai seul ». Tant que je vivais seul de Dimitri Tiomkin, très jolie mélodie.
Oh oui, c'est super.
Vous sifflez magnifiquement.
Mais pas facile.
C'est vraiment une technique extraordinaire, monsieur.
Non, j'ai pas de technique, je sais pas comment je fais.
Mais ça marche en tout cas.
J'avais énormément de souffle. C'est François Robert qui me disait.
Avec qui vous avez fait un disque aussi,
ah bah oui, il a fait mes arrangements de mon disque. Il me disait respire de temps en temps.
On ne peut malheureusement pas tout évoquer de votre carrière, Micheline Dax, mais il y a un aspect qui réjouit les enfants et les anciens enfants. Ce sont les voix que vous avez prêtées à beaucoup de personnages, depuis le Manège Enchanté, où vous faisiez à peu près tous les personnages.
Tout, Jacques Baudouin et moi, on faisait tout à nous deux.
Et puis jusque bien sûr au Muppet Show à la fin des années 70.
Ça a été une aventure exceptionnelle. Oui. Avec Carrel, Tornade, Hernandez... Francis Lax, j'étais la seule fille, hein, parce que les Américains, il y avait
Miss
pas de filles.
C'était Miss Piggy, il faut dire. Hein.
Miss Piggy, mais on faisait 10 chacun.
Ah oui.
Ah oui, je faisais pas que Miss Piggy, et Carrel ne faisait pas que Kermit, bien entendu.
Mais quand on vous a engagé, vous avez dit qu'on vous avait appelé en vous demandant si vous vouliez doubler une grosse cochonne
folle
de son
corps. Non, c'est Carrel, il m'a dit exactement, ma grande, on nous propose des marionnettes révolutionnaires, il n'avait pas tort. Il y a là-dedans un personnage de grosse cochonne, folle de son corps et dont personne ne veut, on a pensé à toi. Et c'est parti comme ça, j'ai trouvé la voie tout de suite.
Il faut dire, il y a d'ailleurs des disques qui sont sortis, il y a beaucoup de musique,
oui,
alors qui est plutôt du répertoire américain, puisque ça a été repris
bien sûr.
D'une série anglaise célèbre.
Non, c'est eux qui ont commencé, nous on a fait l'adaptation.
C'est ça.
Mais ça a été formidable. Carrel, vous savez, je le trimballe dans ma besace depuis depuis longtemps, longtemps, même avant ça. Oui. Mais c'est un homme formidable. Alors lui, quel comédien. Alors, il prend tous les accents, hein, oui. Tous.
Et puis, une autre voix que je trouve très drôle. Alors, on va écouter les deux, là. On va écouter le Muppet Show et Astérix et Cléopâtre, où vous faites Cléopâtre.
Ah, t'as raison, il a aussi, vous savez...
Avec un lion fou.
Le lion, c'est Baudouin. C'est le bain de Cléopâtre.
Voilà. Comment vous êtes arrivé là-dedans, c'est Pierre Tchernia, votre
Tchernia
vieux camarade.
Oui, oui, oui. Et bien, il nous a tous pris. Et alors Goscinny, moi, j'ai été ébloui par Goscinny. Ouais. Vous savez que c'est un homme unique. Hein. Quelqu'un de plus doué que ça, on ne peut pas voir. Parce qu'il faisait tout. Mais tout. Il faisait 5 longs métrages en même temps. Sa fille, je l'ai vue l'autre jour, elle dit qu'il avait une machine à écrire, il avait une feuille. Il faisait tel scénario. Au bout d'une heure, il avait un réveil. Il posait, il prenait une autre feuille, c'était un autre scénario. Ah oui, non, c'est extraordinaire, des gens comme ça.
Alors, on va vous retrouver dans 2 extraits musicaux. Donc, le premier, c'est le Muppet Show. Le second, c'est Astérix et Cléopâtre. Vous avez un côté un peu Ima Sumac, d'ailleurs. Et c'est très réussi.
Ma, puisqu'il faut aller jusqu'au bout...
Kermitou ! Oh, Kermitou !
Oui, Piggy ?
Tu n'as pas oublié que tu m'as promis de m'emmener dîner ?
Ah, non, je m'en souviens.
Je serai toute vêtue de rouge, la couleur de la passion.
Je resterai en vert, la couleur de l'espoir.
De l'espoir ?
L'espoir de trouver un prétexte pour ne pas aller dîner avec toi.
Quoi ?
Évidemment, mais oui, tu combattis, on enchaîne sur une vieille copine et son hibou.
As-tu mis mon cœur? As-tu mis le cœur que tantôt moi je t'ai donné? Ou plutôt que tu m'as volé? Sous les jours heureux, sous les cieux si bleus, hein? Et nous tous à vue.
C'est le roi des animaux, du courage comme 4 et de l'esprit.
Alors ça, 0, hein?
Il est magnifique aussi, Jacques Baudouin, en lion.
Il faisait ça formidablement, oui.
Et toujours une musique de Calvi.
Bien sûr, et les textes de Goscinny, Tchernia, tout ça. Le nom de Tchernia que j'aime tant, qui lui aussi, je le trimballe dans ma besace depuis des années.
On le salue, Pierre Tchernia.
Ah, oui,
on avait beaucoup de plaisir avec lui dans cette émission. Bah, d'ailleurs, on va finir par juste une série de petits coups de chapeau à des gens que vous aimez, Micheline Dax. Alors, on en a déjà cité un certain nombre. Anne Baquet,
Anne Baquet, hein, qui est un prodige.
La fille
de Maurice et belle-fille de François Robert.
Oui, exact.
Et alors, extraordinaire, ils ont 2 enfants. L'aîné vient d'avoir un prix de piano au conservatoire et le petit le plus petit, un prix sur le violoncelle de son grand-père.
Ah, oui,
vous imaginez ce qui serait heureux de savoir que les deux petits ont hérité totalement. Hein.
Voilà, très Anne, elle est charmante chanteuse.
Ah, elle est tout, elle est Anne tout. Baquet, elle joue. Je suis hors de moi de l'idée qu'on n'en fasse pas une tête d'affiche. Ça me rend folle, car chaque fois que je vais la voir, elle fait un triomphe. Enfin, c'est pas douteux.
Ouais, c'est
et puis ça s'arrête là. Personne ne se décide. Ça me dégoûte.
Et la famille Dutronc, vous les aimez bien?
Oui,
tous les
énormément.
Trois,
bah, hein, c'est un cas aussi, là, hein, vraiment. Maman, papa et le petit, alors ça.
Voilà, ça fait
mais c'est bien qu'il ait eu l'idée de demander à son père de rechanter. C'est pas
de
idiot,
vos coups
ça.
De cœur.
C'est lui qui a eu cette idée.
Thomas Dutronc, oui, voilà. Qu'on avait reçu aussi.
Hein.
Et puis, on va terminer avec votre chère Marie-Paul Bell.
Oui. Hein, que j'adore et qui a un talent. Alors, celle-là aussi. Vous vous rendez compte qu'elle n'a fait qu'un gala l'année dernière, ouais, au mois de mai, à l'Olympia, et qu'elle n'en a pas fait depuis. Non, mais je rêve. Hein.
Ouais,
quand je vois ce que vous assène comme médiocrité, c'est triste.
Nous, on espère bien, en tout cas, la recevoir
un de ces jours. Elle va venir
vous
voir et elle va revenir.
Nous, hein.
Et elle va repartir en tournée. Là, au mois de septembre, elle a de nouveau une actualité vivifiante.
Vivifiante. Bah, écoutez, merci Micheline Dax, parce que vous êtes vraiment très vivifiante, vous
oh
aussi.
Oh mon Dieu.
On a passé un délicieux moment en votre compagnie. On va se quitter justement avec Marie-Paul Bell, une chanson que vous aimez beaucoup.
Voilà.
Et puis, suite au prochain numéro.
Bah oui, parce que dans 8 ans.
Dans 8 ans. Merci, à bientôt.
C'est moi qui vous remercie, Benoît.
Quand nous partirons en week-end pour Deauville ou pour Saint-Tropez, ce sera sans nous disputer. Oui, ce sera sans nous disputer. Nous nous rejoindrons le matin, moi sans rimel, toi par hasard, et nous nous sentirons très bien. Oui, et nous nous sentirons très bien. Achetant des livres sur les quais, politiques ou policiers, ce sera sans nous disputer. Oui, ce sera sans nous disputer. Nous nous quitterons dans un bar, moi couche tôt, toi traîne tard, et nous dirons quelle bonne soirée. Oui, et nous dirons quelle bonne soirée. Quand tout ira bien, rencontrerons parfois, accompagnés comme il se doit. Ce sera sans nous saluer, oui, ce sera sans nous saluer. Mais de loin au même restaurant, nous sourirons discrètement. Nous serons complices un moment, oui, nous serons complices un moment. Quand tout ira bien, quand tout ira bien, quand
Quand nous serons amis, une chanson de Marie-Paul Bell choisie par Micheline Dax qui était l'invitée d'Étonnez-moi Benoît le 6 mars 2010. La semaine prochaine, on se retrouve en compagnie de Jacques Loussier.
À réécouter sur francemusique.fr.